Bonsoir, frères et sœurs. Franchement, puis très sincèrement, je ressens un immense privilège de m'adresser à mes frères et sœurs des assemblées de Suisse romande. C'est un immense privilège. Il y a plusieurs visages que je connais, puis ça me réjouit de vous voir tous. Puis j'ai pas eu le temps avant de vous serrer la main. Mais vous prenez le temps de le faire par la suite. J'aimerais beaucoup pouvoir vous rencontrer par la suite. C'est vraiment un grand privilège. Mais en même temps aussi, je veux vous dire que c'est bien humblement que j'aborde ce sujet-là parce que c'est un sujet tellement vaste. Il est immense dans les Saintes Écritures. Moi, je ne prétends pas, mais pas du tout, maîtriser totalement le sujet du royaume de Dieu dans les Écritures parce qu'il est trop grand, il est trop vaste. Je suis un perpétuel étudiant de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que j'aborde le sujet du royaume de Dieu dans les Écritures. Comme un étudiant, et à travers l'étude que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, je veux vous partager certaines de mes réflexions, de mes conclusions, tout en gardant une ouverture pour apprendre davantage, pour découvrir davantage. Mais je crois vraiment que en tant qu'étudiant de la parole de Dieu, parce que c'est ce que nous sommes quand nous nous convertissons, nous ne devenons pas seulement que des enfants de Dieu, mais aussi des étudiants de la parole de Dieu. Nous l'aimons, cette parole. C'est la vérité. C'est elle qui est notre seule autorité en matière de foi, ce que nous croyons, et en matière de conduite, ce que nous faisons, ce que nous pratiquons. Alors, je ne peux pas voir comment nous ne serions pas, chacun de nous, dans une certaine mesure, des étudiants de la parole de Dieu, pour mieux comprendre et pour mieux vivre par la suite. Alors, j'aborderai ce sujet-là, la théologie biblique du royaume et sa relation avec l'Église, avec une ouverture pour mieux comprendre, et je suis persuadé que si j'ai une bonne théologie du royaume, tout en admettant qu'il y a encore beaucoup de la place à la compréhension, je crois que ma conduite aussi va en être affectée. Juste pour relire ce que le frère Benjamin a fait un peu, relire ce qui avait été publié sur, je crois que vous appelez ça un flyer, sur le flyer, il y avait ce petit paragraphe qui dit ceci. Les chrétiens d'aujourd'hui semblent parler davantage de l'avancement du royaume plutôt que de l'édification de l'Église. C'est le langage courant. On dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer le royaume? C'est pas un langage qui est fondamentalement faux, mais je crois qu'il ne représente pas exactement la mission que nous avons en tant que chrétiens de l'Église de Jésus-Christ. On devrait plutôt parler d'édification. Je crois que la théologie biblique du royaume, c'est important, et on doit vraiment comprendre son impact dans les Écritures, sa place, mais sans oublier ou négliger la vérité du corps de Christ et de l'édification de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a une différence entre avancement du royaume et édification du corps de Christ? Bien, si je me fie aux cantiques que l'on chante parfois, et si je me fie à ce qui est communiqué depuis les différentes tribunes par les différents prédicateurs, je crois qu'il y a vraiment une différence. La compréhension théologique, d'une part de l'avancement du royaume, et d'autre part de l'édification de l'Église, va amener les chrétiens à agir d'une façon ou d'une autre, qui peut être assez différente l'une de l'autre. L'Église est le royaume de Dieu. Sont-ils la même chose? Est-ce qu'on peut parler de façon indifférente ou comme si les termes étaient interchangeables du royaume de Dieu et de l'Église de Jésus-Christ? Ou y a-t-il une différence entre les deux? Et comment comprendre donc la relation entre les deux pour qu'on puisse bien remplir notre rôle? Je crois que pour répondre à cette question, il faut comprendre et reconnaître la distinction qui existe dans la Bible entre Israël et l'Église. Est-ce qu'il y a une distinction entre les deux? Vous savez, souvent nous avons l'habitude de discuter au niveau théologique. Je vais comme l'imager en disant ici, on est au niveau théologique. Et là, on argumente une théologie versus une autre théologie. Mais le point important serait de commencer par redescendre à la méthode d'interprétation, l'herméneutique. Quelle est ta méthode d'interprétation pour interpréter l'Écriture? De quelle façon devrait-on interpréter l'Écriture? On pourrait passer la soirée sur ce seul thème-là. On a déjà fait un peu dans le cours Biblos, mais je veux juste simplifier en disant que ce que l'Écriture elle-même fait, et elle le soutient, l'interprétation doit être littérale. Une interprétation littérale n'exclut pas les différentes figures de style, les formes littéraires, donc on doit tenir compte de ça. Quand un mot est utilisé au sens figuré, bien sûr qu'on doit l'interpréter au sens figuré, mais c'est le contexte qui va nous l'indiquer, pas notre théologie. Alors, aborder l'Écriture avec un point de vue théologique, déjà bien ancré, ça va être difficile d'arriver, je pense, à des conclusions parfois qui pourraient être différentes de notre théologie. On va plutôt chercher à justifier nos points de vue théologiques en réinterprétant certains passages avec une méthode d'interprétation différente. C'est ce qui se passe, par exemple, dans la théologie réformée à certains égards quand on parle de prophétie. Parce que dans la théologie de l'Alliance ou la théologie réformée, on interprète de façon générale littéralement les Saintes Écritures. Mais quand on arrive dans la prophétie, on ne peut plus l'interpréter littéralement. Pourquoi? Parce que les conclusions seront forcément différentes des conclusions théologiques qui sont adoptées dans la théologie réformée ou la théologie de l'Alliance. Et je dis cela parce que j'ai lu des auteurs qui débattent les points de vue réformés sur certains points de vue théologiques, bien sûr, et qui admettent eux-mêmes que si on doit interpréter littéralement les Écritures, nos conclusions ne seront plus les mêmes. Donc, forcément, il faut penser que, par exemple, les prophéties à l'égard d'Israël dans l'Ancien Testament, elles doivent s'appliquer à l'Église, mais on ne peut plus interpréter littéralement le texte, puisqu'il ne parle pas de l'Église, mais qu'il parle bien d'Israël. Mais si notre méthode d'interprétation, elle est littérale et figurée quand le texte lui-même est figuré, ou avec une portée différente selon la forme littéraire, bien, si on a cette méthode constante, cohérente, nous allons arriver à une distinction entre Israël et l'Église. Jamais l'Écriture, avec cette méthode d'interprétation littérale, ne confond les deux. Israël demeure d'une part la femme de Yahweh, si je peux dire ainsi, et l'Église l'épouse de Christ. Il y a une différence entre les deux. Et Dieu a un programme différent pour Israël et l'Église. Quoique, il y a beaucoup de similarités entre les deux. Et l'interprétation littérale nous amène à cela. Je pense entre autres à ce texte dans Pierre où il applique ce que Dieu disait autrefois d'Israël. Une nation sainte, un peuple acquis, voici de l'Église aussi, on peut dire la même chose. Mais l'Écriture ne confond pas les deux. Alors, une bonne définition d'Israël d'une part et de l'Église d'autre part nous aide à ne pas confondre les deux. Cette définition doit provenir de l'Écriture, pas d'une interprétation théologique particulière que je voudrais absolument défendre. Voici comment je peux décrire ou définir Israël. C'est le peuple élu de Dieu, choisi depuis Abraham jusqu'aux 12 tribus, avec qui Dieu a fait 4 alliances qui sont éternelles, inconditionnelles et irrévocables. Ils sont le peuple ethnique juif. C'est le peuple d'Israël. Les 4 alliances sont l'alliance abrahamique, la plus importante de toutes dans la Bible. Sur elle reposent toutes les autres alliances. Sur elle reposent toutes les promesses de Dieu, même à l'égard de l'Église dans une mesure. Parce que en Abraham, toutes les nations de la terre sont bénies, et c'est ce qui se passe aussi à travers l'Église. Paul va expliquer cela dans l'Épître aux Galates. Donc, l'alliance abrahamique, l'alliance du pays qui concerne Israël, est-ce que Dieu a jamais promis à l'Église de donner à l'Église un pays, Israël, au Moyen-Orient? Jamais. Mais il a promis cela à Israël, le peuple élu, le peuple choisi. Troisième alliance, l'alliance davidique. L'alliance avec David, dans laquelle il y a un royaume, un roi, un règne éternel, qui n'a pas toujours été établi jusqu'à maintenant. Par l'interprétation littérale, c'est évident. Vous allez voir que, même au temps du Seigneur, même à la toute fin, les apôtres croyaient encore que ce royaume-là allait être finalement établi. En tout cas, ils se questionnaient sur les moments. Et la quatrième alliance avec Israël est l'alliance, la nouvelle alliance. Vous connaissez le texte de Jérémie 31, probablement, les versets 31 à 34, qui disent sensiblement ceci, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec l'Église une nouvelle alliance. » C'est ça? Est-ce qu'il dit ça? Non. Il ne dit pas avec l'Église. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. » On sait que le royaume s'est divisé en deux. « Une nouvelle alliance. » Et cette alliance est décrite par Jérémie dans certains termes, certaines conditions. Mais Jérémie n'est pas le seul à parler de la nouvelle alliance. Ézéchiel en parle, et presque tous les prophètes finalement en parlent aussi, dans un sens où Dieu promet une régénération pour Israël, le peuple choisi, le peuple élu. C'est le programme de Dieu pour Israël. Ces quatre alliances sont avec lui. On va discuter tout à l'heure de l'impact de la nouvelle alliance dans l'Église. Il y en a un. Il y en a un. Il y a un lien entre les deux. Mais l'interprétation littérale de l'Ancien Testament me dit que c'est avec Israël et non pas l'Église que Dieu a fait ces quatre alliances. Pour définir l'Église, on peut brièvement la définir ainsi. L'Église est le rassemblement de personnes sauvées de tout peuple, de toute race, quel contraste déjà avec une race ethnique, Israël, et de toute nation qui sont unies à Christ pour former un corps mystique dont il est la tête. Certains préfèrent le mot spirituel, un corps spirituel, mais c'est dans le sens mystique où c'est immense, ça inclut tous les croyants de partout, et cette Église n'est pas forcément visible dans sa totalité. Et elle comprend même ceux qui sont déjà décédés avec le Seigneur. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le mot mystique dans ce sens-là. Est-ce que, en y réfléchissant, en lisant les définitions, ça semble cohérent avec ce que la Bible enseigne? Est-ce que déjà au point de départ, on pourrait dire, ouais, ça ressemble vraiment à une définition d'Israël, il n'y a aucun doute, tu sais, on le voit là, ça ressemble aussi à l'Église. Maintenant, il y a une théologie qui s'appelle la théologie du remplacement ou de la continuation. L'Église est le remplacement d'Israël, parce qu'Israël a désobéi à Dieu. Alors, Dieu a complètement rejeté son peuple d'Israël et a plutôt transféré le tout à l'Église, qui est son nouveau peuple. Certains ne sont pas d'accord avec ça. Ils vont dire, non, c'est pas tellement comme ça que ça se passe. C'est que Dieu va utiliser plutôt le rejet d'Israël, le rejet de Dieu par Israël, pour révéler la continuité de son peuple dans la forme de l'Église. Et donc, c'est plutôt une suite du programme, une suite des choses. Mais dans les deux points de vue, il y a une incohérence avec ce que la Bible enseigne littéralement, puisqu'elle maintient constamment une distinction entre Israël et l'Église. Même Paul, lorsqu'il écrit son épître aux Corinthiens, je pense que c'est le chapitre 10, j'y vais un petit peu de mémoire, mais où il dit de ne pas être en scandale ni aux Juifs, ni à l'Église, ni aux gens en général. Donc, il y a une distinction maintenue constamment dans la Bible entre les deux. Et si, comme point de départ, je ne confonds pas Israël avec l'Église, pas parce que je le veux absolument, parce que je me rends compte que dans l'interprétation littérale, c'est ce que la Bible fait, bien, mes conclusions théologiques seront certainement différentes. Donc, partons sur cette base où il y a une distinction entre Israël et l'Église, et on se tourne maintenant vers la théologie biblique du royaume. Il me semble qu'en traversant les Saintes Écritures, il y a cinq aspects différents au concept de royaume. Et j'utilise le mot royaume, mais j'ai aussi à l'esprit le mot règne quand je parle de royaume, c'est-à-dire Dieu règne ou Christ règne. Il y a un royaume, un roi et un règne. Et c'est cette pensée-là qui est vraiment présente dans le mot royaume. L'Écriture, je crois, mentionne 5 aspects différents. Nous allons regarder ensemble et garder à l'esprit, est-ce que la Bible soutient vraiment ce qu'il est en train de dire avec une méthode d'interprétation littérale? Premier aspect, le royaume universel et éternel de Dieu. Je fais simplement que les mentionner. Par la suite, on va aller un petit peu plus dans le détail. Deuxième aspect, le royaume ou le règne spirituel. Troisième aspect, le royaume théocratique. Ah, bien sûr que l'expression n'est pas utilisée, elle n'est pas utilisée telle quelle dans l'Écriture. Ça, c'est une façon d'exprimer cet aspect qui semble vraiment ressortir d'une interprétation littérale. Je vais vous le démontrer tout à l'heure avec des versets à l'appui. Mais on va l'appeler l'aspect du royaume théocratique. Ensuite, il y a l'aspect du royaume messianique. Ça, c'est l'aspect que les dispensationalistes appellent le millénium. Mais en réalité, millénium, ça vient de cette période, la durée en réalité du royaume messianique qui est de 1000 ans selon une interprétation littérale d'Apocalypse 20 dans les premiers 6 premiers versets. Ça revient plusieurs fois, le concept de 1000 ans, un règne de 1000 ans, Satan est lié 1000 ans et ainsi de suite. Donc, si on prend le sens littéral de ces mots, bien que c'est dans un livre rempli de symboles, c'est vrai, mais les symboles dans l'Apocalypse sont expliqués. C'est pas un livre mystérieux dont on ne peut pas comprendre le sens, et ça nous prend toutes sortes d'imagination pour essayer de comprendre le texte dans son contexte. Et quand quelqu'un a dit, puis d'ailleurs je suis totalement d'accord avec ça, quand le sens normal a du sens, ne cherche pas un autre sens. C'est tellement vrai. Si le sens de 1000 ans littéral a du sens, pourquoi j'aurais besoin de chercher un autre sens? Si j'ai déjà une conception théologique que je veux absolument défendre, bien sûr que je vais chercher un autre sens. Parce que là, ça ne correspondra plus. Mais moi, je préfère, au lieu de parler de millénium, puisque c'est seulement lié à la durée, je vais parler plutôt de royaume messianique, parce que c'est le Messie qui est au cœur de ce royaume-là, ou de cet aspect du royaume de Dieu. J'aurais pu l'appeler le royaume davidique, parce qu'il repose sur l'alliance avec David dans 2 Samuel 7. Mais on met l'accent sur le Messie. Et le cinquième et dernier aspect est le royaume mystérieux. Et lui, il concerne l'Église. Il y a effectivement un lien entre le royaume de Dieu et l'Église. Oui, bien sûr. Mais on va voir à quel niveau est ce lien. De quelle façon cela est présenté, le royaume mystérieux. J'ai pas vu ça, là, mot pour mot comme ça, dans l'Écriture, mais j'ai vu le mot mystère en rapport avec l'Église. Et je vais vous en parler plus en détail. Mais on va reprendre un peu chacun de ces aspects-là. Le royaume universel et éternel. Je crois qu'on est tous d'accord avec ça, que Dieu règne toujours souverainement sur sa création. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On peut même pas remettre ça en question. Dieu règne toujours. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Je me rappelle d'avoir lu dans mes premières années de vie chrétienne certaines brochures ou articles qui disaient que Satan avait usurpé le royaume à Dieu. Non, Satan, il fait rien de ça. Satan, il enlève rien à Dieu. Il ne vole pas Dieu. Il n'est pas fort pour dire à Dieu, là, t'as tout un ennemi devant toi, il va falloir que tu déploies beaucoup de puissance parce que je suis très fort. Satan n'a aucune puissance intrinsèque, c'est-à-dire en lui-même. C'est ce qu'il a, qui lui est permis dans le fond de Dieu. Dieu est le souverain, il règne, il est pleinement au contrôle. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle, même ce que le diable peut faire est limité par la permission de Dieu. Il ne peut rien faire en dehors de la permission de Dieu. Et sa puissance lui est permise par Dieu. Donc, ce royaume-là, ou ce règne-là, souverain de la part de Dieu, il est sous deux aspects. Il est universel, ça veut dire que personne sur la terre peut dire, nous échappons au règne souverain de Dieu. On fait ce qu'on veut. Et Dieu n'a rien à dire. Pas du tout. Il est pleinement souverain, il l'a toujours été. Et l'autre aspect, c'est qu'il le sera toujours, 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 c'est l'aspect éternel. Vous comprenez que il y a beaucoup de versets, hein? Alors, j'ai choisi des textes qui me semblent assez clairs pour soutenir ces différents aspects. Donc, nous avons premièrement ce texte dans les Chroniques qui nous dit ceci. « À toi, Éternel, est la grandeur et la force et la gloire et la splendeur et la majesté, car tout dans les cieux et sur la terre est à toi. À toi, Éternel, est le royaume et l'élévation comme chef sur toutes choses. » 1 Chronique 29, verset 11. On interprète littéralement, qu'est-ce que ça souligne? Ça souligne l'aspect universel du règne ou du royaume de Dieu. Il est chef sur toute chose, il est au-dessus de tout, tout, tout. Il me semble qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'arguments pour justifier cet aspect du royaume de Dieu dans les cinq Écritures. Et ensuite, nous avons dans le psaume 29, 10, et là j'ai choisi la version seconde, alors qu'habituellement ce sera Darby, mais j'ai bien aimé la façon dont il a rendu ce texte-là, psaume 29, 10, « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. » Mais c'est catastrophique ce qui se passe pendant le déluge, mais Dieu règne. Dieu est souverain, tout est sous son contrôle. Là. Tout ce qui arrive, tous les événements, tout ce qui fait en sorte que Noé et sa famille vont être sauvés et que la terre va être détruite, tout cela est sous le plein contrôle souverain de Dieu. Et regardez la deuxième partie du verset. « L'Éternel sur son trône règne éternellement. » On parle du royaume et de l'aspect éternel du royaume universel et éternel de Dieu. Il règne toujours, toujours, toujours. Dieu, en quelque sorte, est toujours roi. Toujours. Il n'a pas besoin de rien. Il n'a pas besoin qu'on fasse quoi que ce soit pour qu'il soit ce roi ou qu'il puisse régner sur la création. Elle est à lui, c'est tout. Alors il règne. Je pense que c'est un aspect du royaume de Dieu dans les Écritures qui est pleinement accepté par tous les croyants. Et ça nous fait du bien. Surtout en voyant le monde. Le monde, c'est épouvantable, dans le sens où ça tourne présentement, c'est incroyable. Dieu est encore au contrôle. Il est pleinement souverain. Pour nous, l'étude des choses de la fin, l'eschatologie, c'est de savoir que Dieu est au contrôle parce qu'il règne. Et j'ai besoin de me rappeler cela constamment. Deuxième aspect, le royaume spirituel. Le royaume spirituel, c'est le royaume qui comprend tous ceux qui sont sauvés de toute les époques. Et il y a un très beau verset qui souligne cet aspect-là. C'est le Seigneur Jésus qui parle à Nicodème et lui dit, dans Jean 3, 3, Jésus répondit et lui dit, « en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » La nouvelle naissance est ce qui permet à l'homme d'accéder à cet aspect du royaume, le royaume spirituel. Il y a un royaume spirituel. C'est évident. Et c'est vrai aussi dans l'Ancien Testament. C'est que l'Ancien Testament, d'un point de vue théologique, n'est pas sotériologique. Ça veut dire que l'Ancien Testament ne met pas beaucoup l'accent sur le salut, et particulièrement le salut individuel. C'est surtout dans le Nouveau Testament qu'on a cet aspect-là de la doctrine du salut qui est beaucoup, beaucoup accentué. Il y a des sauvés dans l'Ancien Testament, qui le sont d'ailleurs sur la même base que nous et de la même façon que nous, par la foi. L'objet de la foi est différent, c'est la mesure de révélation que Dieu donne, mais chaque personne sauvée dans l'Ancien Testament fait partie de ce royaume ou cet aspect du royaume de Dieu, le royaume spirituel. Il est sauvé et Dieu règne dans ce royaume ou dans cet aspect du royaume. C'est appelé le royaume de Dieu. Donc, quand on est né de nouveau, quand on passe par la nouvelle naissance, qu'on devient enfant de Dieu, que ce soit à travers n'importe quelle époque, de n'importe quel peuple, ou quoi qu'il en soit, d'Israël ou de l'Église, c'est le royaume spirituel, ou l'aspect du royaume spirituel. On a aussi un autre passage qui parle de l'Église spécifiquement, qu'il dit « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Quel beau verset dans Colossiens 1, 13. Donc, il nous a fait passer dans un royaume dans lequel on n'était pas. De quelle façon étions-nous dans les ténèbres? Spirituellement, vous êtes d'accord? Nous étions morts spirituellement, mais maintenant nous sommes vivants parce que nous avons été pris d'un royaume, celui des ténèbres, amenés dans le royaume de Dieu, le royaume du Fils de son amour. C'est cet aspect spirituel du royaume de Dieu qui est souligné dans ce passage vraiment merveilleux. Et il n'y a pas beaucoup de versets qui parlent de royaume dans les Épîtres. Très, très peu d'ailleurs, parce que l'accent est ailleurs. On va le voir un petit peu plus tard. Mais ça, c'est un des versets qui parle de royaume dans les Épîtres. Et nous savons que c'est dans les Épîtres que nous trouvons la doctrine de l'Église. Le troisième aspect, plutôt, du royaume de Dieu, nous avons le royaume théocratique. Ça, c'est Dieu qui règne sur Israël. Particulièrement sur ce peuple-là. C'est englobé dans peut-être l'aspect du règne universel de Dieu, bien sûr. Mais c'est un règne qui a quand même une forme particulière, que l'on voit en deux phases. Est-ce qu'on dit ça, le mot phase? Oui. Donc, en deux, peut-être étapes aussi, ça pourrait être bien, mais vraiment deux phases différentes. Il va y avoir le royaume théocratique, c'est-à-dire Dieu règne directement sur Israël, dans deux périodes différentes. Et je vous les présente maintenant, avec un texte de Juge. Et Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mon fils ne dominera point sur vous, l'Éternel dominera sur vous. » Et ce verbe « dominer » en hébreu a la connotation de « régner ». C'est la même chose, ou presque. C'est un synonyme de « régner » en hébreu. Donc, c'est Dieu qui doit régner sur vous. Et nous sommes à l'époque des juges. À l'époque que nous allons appeler la période des médiateurs. Une époque qui va aller depuis Moïse jusqu'à Samuel. Est-ce que vous reconnaissez que l'interprétation littérale de l'Ancien Testament, depuis la formation et l'appel de Moïse, jusqu'à la fin du ministère de Samuel en tant que juge et ça débute son ministère de prophète aussi, est-ce que nous reconnaissons que Dieu a régné sur Israël en les délivrant à travers des médiateurs? Il y a eu Moïse, il y a eu Josué, il y a eu les anciens qui ont suivi la génération de Josué, puis ensuite il y a eu les juges. Et c'est à travers ces médiateurs-là que Dieu a exercé sa théocratie, c'est-à-dire son règne à lui sur Israël. Pas sur les nations autour. Ça ne veut pas dire que Dieu ne règne pas. N'oublions pas l'aspect universel. Dieu règne toujours. Mais spécifiquement, il règne sur Israël. Il domine sur Israël. Mais cette période-là va arriver à sa fin, pas la période du royaume théocratique, mais la période des médiateurs à l'intérieur du royaume théocratique, elle va arriver à sa fin avec Samuel, parce qu'Israël vont demander quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont demander? Un roi, comme les autres nations. C'était le plan de Dieu qu'il y ait un roi en Israël. Depuis les patriarches, on savait qu'il y aurait une période monarchique en Israël. C'était clair qu'il y aurait des rois. Parfois on dit, c'était pas la volonté de Dieu qu'il y ait des rois en Israël. Oui, c'était la volonté de Dieu. C'est exactement ce que Dieu voulait. Il a dit à Abraham, des rois vont sortir de toi. Et Jacob a révélé la tribu royale, Judas, dans les promesses prophétiques de Genèse 49. C'était clair qu'il devait y avoir un roi qui allait venir et des rois en Israël. Mais Dieu va instaurer sa monarchie dans une période théocratique où il règne directement sur Israël. Dieu va instaurer sa monarchie à travers la demande méchante d'avoir un roi comme les nations. Et Dieu va débuter cette période-là en leur donnant quelqu'un qui ne pouvait même pas être roi sur Israël. Saül. Pourquoi? Pas parce qu'il était méchant, parce qu'il était de la tribu de Benjamin. C'est pas la bonne tribu. C'est Juda, la tribu royale. Alors, l'homme qu'il a choisi, et Saül est le choix de Dieu aussi, mais selon les critères de l'homme, alors que David sera l'homme choisi par Dieu selon le critère de Dieu. Et c'est la deuxième période, la période monarchique. Donc, vous allez voir maintenant la période monarchique. Et comme texte, j'ai choisi ce passage de 2 Chroniques 6:6. J'ai choisi Jérusalem afin que mon nom y soit, et j'ai choisi David pour être roi sur mon peuple d'Israël. Donc, à travers David et sa descendance, Dieu règne sur Israël. Il y a une période de médiateur,
Ensuite, il y a eu une période de roi, mais c'est toujours Dieu qui règne sur Israël. C'est un aspect du royaume de Dieu qu'on ne peut pas manquer dans une interprétation littérale des Saintes Écritures. C'est dominant même dans l'Ancien Testament, surtout cette période-là monarchique, donc la période des rois. Cette période va durer de David jusqu'à Sédécias. Et quand Jérusalem va être détruite par Nébuchadnezzar, et que ça va mettre fin à la descendance davidique, c'est terminé, il n'y a plus de roi en Juda, il n'y a même plus de Juda, il n'y a même plus d'Israël, tout le monde est apporté ailleurs, ou déporté ailleurs, je devrais dire, emmené en exil. Qu'est-ce qui arrive? C'est le temps des nations qui commence. C'est la prophétie de Daniel qui commence. Les quatre royaumes qui vont se succéder l'un après l'autre. Donc la période de théocratie est terminée. Dieu qui règne directement sur Israël, c'est terminé. Mais Dieu est encore là. Il règne. C'est l'aspect universel éternel qui n'arrête jamais. Dieu est là. Il règne. Il est au contrôle. Ah, le livre d'Esther me montre à quel point Dieu règne. Mais il n'y a pas de règne théocratique. Mais il y a un règne de Dieu qui contrôle toutes les circonstances. Quand, dans le livre d'Esther, hein, ça nous montre à quel point Dieu contrôle les circonstances où il contrôle le tirage au sort qui va déterminer la date d'extermination d'Israël par Aman. Et non, ça n'arrivera pas. C'est le contraire qui va arriver. Parce que Dieu est souverain. Il règne sur Israël. Il règne sur le monde. Il règne de façon souveraine. Mais son règne théocratique, il n'est plus là. Maintenant, c'est Daniel qui s'accomplit avec la prophétie des quatre empires mondiaux qui se succèdent. L'interprétation littérale m'oblige à arriver à cette conclusion-là. Il y a eu Babylone, il y a eu les Mèdes et les Perses, il y a eu l'empire d'Alexandre le Grand, même si, bon, il est décrit dans Daniel 11, mais on ne voit pas nécessairement l'instauration de ce royaume-là. Il faut aller dans les livres des Maccabées pour avoir d'un point de vue historique ce qui s'est passé. Mais on voit les Romains dans le Nouveau Testament, quand on arrive là. Voilà, les quatre empires sont en place. Et nous sommes encore dans le temps des nations. Pourquoi? Parce qu'Israël a rejeté le Messie. Et donc, tout a été remis à une période ultérieure. Et en attendant, Dieu avait un autre programme, l'Église. Le règne théocratique, c'est Dieu qui règne directement sur Israël, à travers ces deux périodes-là de l'Ancien Testament. Le royaume messianique, c'est immense. C'est l'accomplissement de l'alliance davidique. Avec Sédécias, qui est emmené à Babylone, les yeux crevés, après avoir vu tous ses enfants être égorgés devant lui, c'est terminé. Il n'y a plus de descendants de David. Or, Dieu avait promis qu'il y aurait dans la descendance de David un roi éternel, un règne éternel, un royaume éternel. Et c'est le Seigneur, nous le savons, c'est le Messie, c'est Jésus-Christ qui va être ce fils de David, qui va être le Messie, le roi. Il le dit d'ailleurs lui-même, « Je suis le roi ». Mais il n'a jamais établi ce royaume, parce que c'est Jérusalem où il doit résider. Il a fait habiter son nom, à moins que je change de méthode d'interprétation et que je dise, « Ah, mais là, Jérusalem ne veut plus dire Jérusalem. » Mais pourquoi ça voudrait plus dire Jérusalem? Si la Bible dit que ça veut dire Jérusalem, ben c'est Jérusalem. Et ce règne-là, où cet aspect du royaume n'est pas encore arrivé, c'est le royaume messianique ou davidique. Et ta maison et ton royaume seront rendus stables à toujours devant toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Et il y a tellement de versets là-dessus. J'aimerais parler d'Ézéchiel. Ah, faudrait parler d'Ézéchiel. C'est un texte qui est... Ézéchiel, t'as pas le choix. Si tu l'interprètes littéralement, le Messie va régner avec son prince qui est David à Jérusalem, littéralement, avec un nouveau temple, complètement dans des dimensions qui n'ont rien à voir ni avec le temple de Salomon, ni avec celui de Zorobabel, ni avec celui d'Hérode. C'est un temple différent, avec une sacrificature différente, avec un Israël régénéré, transformé par la nouvelle alliance qui sert maintenant Dieu comme jamais ils avaient pu le faire auparavant. Ça, c'est si j'interprète littéralement Ézéchiel, où l'accomplissement de l'alliance davidique trouve son sens maintenant. Mais si ma théologie m'a fait écarter Israël du plan de Dieu, je suis obligé de changer et parler d'un temple spirituel dans Ézéchiel, alors qu'il parle de coudée, de mesure, même il y a une canne pour mesurer. Oh, mais la canne, ça veut dire... je sais pas quoi... Non, c'est une canne à mesurer. Vous dites ça, une canne à mesurer. C'est exactement le sens littéral de ce passage. Et l'Apocalypse, à la fin, nous révèle la durée de ce texte-là. Et là, je vais faire une petite parenthèse sur la question de durée. Parce que, quelle est la différence entre éternel et 1000 ans? Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a point de pouvoir, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Et littéralement, il y aura un règne où Christ va régner 1000 ans et les siens vont régner avec lui. Enfin, ceux qui ont part à la première résurrection. Et ça, c'est aussi plus large qu'on peut se l'imaginer. C'est grand, la première résurrection. C'est grand, ça inclut les croyants de l'Ancien Testament, ça inclut les croyants de la période de la tribulation et ça inclut les croyants de l'Église. Et d'ailleurs, on a des promesses littérales adressées aux croyants de l'Église par le Christ glorifié dans Apocalypse 2 et 3 à ce sujet, de régner avec lui. Donc ça, c'est un concept qui est là dans l'Écriture, il n'y a aucun doute. Mais quand même, c'est vrai que l'alliance davidique, la promesse du royaume messianique, disait que ce serait un règne, un royaume éternel, et puis là on dit que c'est 1000 ans. Est-ce qu'il y a une contradiction? Est-ce qu'on s'est trompé quelque part dans notre interprétation? Non. Si nous faisons une étude honnête, morphologique, c'est-à-dire en tenant compte de la forme des mots qui sont utilisés dans l'Ancien et le Nouveau Testament sur le mot éternel, olam, en hébreu. Et ce terme-là, même s'il est traduit par « éternel » dans une traduction littérale, le contexte indique parfois que c'est éternel dans le sens « jamais de fin » et parfois c'est éternel dans le sens d'une longue durée, mais qui peut y avoir une fin. L'alliance mosaïque est une alliance perpétuelle, éternelle, « olam ». C'est parce que l'alliance mosaïque est finie avec la mort de Christ à la croix. Mais c'était de longue durée. Donc, le contexte va être clair. On n'a pas besoin de forcer le sens d'un passage. Même si j'ai le mot éternel, avant de conclure, parce que c'est dans mon esprit à moi qu'éternel veut dire aucune fin, ni par là, ni par là. Mais dans la Bible, l'éternel peut avoir un début ici, puis une fin ici. Quand le contexte l'indique, c'est tout. Il faut juste porter attention à ce genre de détails. Et donc, 1000 ans, c'est quand même assez long. Peut-être pour être appelé éternel. Et c'est pas une contradiction, je pense que ça se complète bien aussi. Il y a tellement de versets sur le royaume messianique. Il domine toutes les promesses de Dieu à l'égard d'Israël. Et jamais dans toute l'histoire d'Israël, on a pu voir une restauration dans une telle proportion. Jamais. Avez-vous déjà vu le pays d'Israël récemment, ses dimensions? C'est tout petit, là. 5 heures de voiture, puis on a fait le tour et c'est terminé. Puis là, j'inclus même la Cisjordanie. En réalité, si je voulais faire juste Israël, c'est encore plus court que ça. C'est plus petit encore. C'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. La Bible parle de l'Euphrate comme limite orientale. C'est loin en Irak, ça. C'est très, très loin. Là, il y a du territoire entre les deux. Et même si David avait un royaume étendu où il avait un certain pouvoir politique jusque là-bas, il ne contrôlait pas du tout pleinement le pays que Dieu leur a donné. Il leur a donné le pays, mais ils n'en ont pas profité à cause de l'idolâtrie et de l'immoralité spirituelle, qui est appelée l'adultère spirituel. Il y a tellement de versets qui parlent de ça. Donc, en réalité, cette alliance-là et ce royaume-là ne se sont jamais accomplis. De toute façon, quand Jésus est venu sur la terre, il ne s'est pas assis sur un trône avec David, ressuscité dans un corps glorieux et Israël régénéré. Non, c'est Israël dégénéré qu'on voit quand Jésus vient. Qui rejette le Messie, qui le crucifie malgré toutes les preuves de son identité. Et ce rejet-là se passe surtout dans Matthieu 12, ce qu'on appelle le blasphème du Saint-Esprit. C'est pas un péché commis par des croyants dans la période de l'Église, ou par des incroyants même dans la période de l'Église. C'est un péché national juif qui consiste à rejeter la messianité de Christ en attribuant au diable une puissance que seul le Saint-Esprit peut donner au Fils de Dieu. Et que c'est évident parce qu'il est là, il le démontre sur la terre. Je crois que c'est dans ce sens aussi que Jésus dit « Ce péché-là ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir ». Le siècle à venir est une expression juive qui parle de la période de restauration de la Nouvelle Alliance, le royaume messianique, le millénium. Mais l'interprétation littérale m'amène là simplement, je ne force rien. Enfin, on peut le débattre si vous voulez, mais il me semble que ça a du sens. Le royaume mystérieux maintenant, Je crois que c'est l'Église. Donc, l'Église n'est pas le royaume de Dieu dans la Bible, mais elle a quand même un lien avec le concept du royaume de Dieu. Jésus dit, remarquez, c'est dans Matthieu 13, qui suit Matthieu 12, où le peuple juif, après avoir commis le blasphème contre le Saint-Esprit à travers ses leaders, ses chefs religieux, ils ont rejeté le Messie, le jugement d'Ésaïe tombe, Jésus parle en parabole, maintenant pour qu'ils ne comprennent plus, c'est un jugement, je parle ici pour que eux ne comprennent plus, mais vous allez avoir une révélation maintenant d'un aspect mystérieux du royaume que personne ne pouvait voir parce que c'était un mystère. Quand je prends le mot mystère et que je fais une étude biblique du mot mystère, je regarde où ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament, évidemment, c'est là qu'on retrouve ce mot-là, je réalise qu'un mystère est quelque chose qui n'était pas du tout connu avant, complètement caché, mais maintenant révélé dans le Nouveau Testament. Et l'aspect du mystère que nous avons dans le Nouveau Testament, il est lié à l'Église. Il y a donc 5 mystères, littéralement, vous allez les voir avec moi dans les 5 Écritures. Christ dans le croyant, Paul appelle cela un mystère. C'est au sujet de quoi? La nouvelle nature. C'est par le Saint-Esprit que Christ est en nous. C'est un mystère. Il n'y avait pas ça avant. Il n'y avait pas ça avant. Mais le Saint-Esprit venait sur des gens pour les remplir d'une puissance pour accomplir certains actes, mais c'était temporaire, ce n'était pas une habitation de Christ par l'Esprit de façon permanente dans le croyant. C'est donc un mystère. Ce n'était pas dans l'Ancien Testament, mais c'est révélé dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose de nouveau qui fait partie de l'Église, la nouvelle nature du croyant. Le corps mystique de Christ, c'est-à-dire l'unité dans Éphésiens 3, verset 1 à 12. Dans la pensée juive, à cause de l'alliance abrahamique, que Dieu allait bénir en Abraham toutes les nations de la terre, le juif était ici, puis les païens étaient quelque part ici. Puis là, on disait, OK, à cause des promesses de notre Dieu, Yahweh, le Dieu de l'alliance, ouais, les nations vont peut-être venir jusque-là. On se rapproche un peu, mais on sera toujours au-dessus des nations. Peut-être que certains juifs disaient, on peut être comme ça un peu avec les nations. Mais là où c'est un mystère, c'est qu'aucun juif n'avait anticipé qu'un jour, juifs et non-juifs formeraient un seul corps en Christ, dont il est la tête. Jamais. Tu ne peux pas voir ça dans l'Ancien Testament, c'est impossible. C'est juste dans le Nouveau Testament, c'est un mystère, c'est révélé. Voilà, il vous a été donné de comprendre les mystères ou le mystère du royaume des cieux. C'est cet aspect du royaume où, à travers l'Église, Jésus va unir juifs et païens en un seul corps. C'est le mystère d'Éphésiens 3. Le troisième mystère en lien avec l'Église, qui est un aspect mystérieux du royaume, l'épouse de Christ, c'est l'union et la sanctification. Nous sommes l'épouse de Christ. Quand est-ce qu'on parle de ça dans nos cantiques maintenant? Que l'Église est l'épouse de Christ? Que Christ sanctifie son épouse? Quand est-ce qu'on parle de ça maintenant? Dans les hymnes des cantiques, oui. Dans les nouveaux cantiques, oh, Jésus est notre roi, il règne sur nous. C'est bien, c'est un aspect du royaume de Dieu. Mais je n'entends plus parler dans les prédications, dans les chants, dans les cantiques, de la relation entre Christ et son Église, la relation époux-épouse, tête-corps. J'aimerais entendre parler de ça. Ce serait un reflet, selon moi, d'une meilleure compréhension théologique de l'Église dans le Nouveau Testament. Oui, nous sommes un aspect du royaume, l'aspect mystérieux, mais nous sommes l'épouse de Christ. Quel privilège! Quel immense privilège qui change notre façon d'être ici-bas, qui a un impact direct sur la sanctification. La Bible ne nous appelle pas, ou très peu, des sujets du roi. La Bible nous appelle des croyants qui font partie de l'épouse de Christ. Nous sommes son corps. N'est-ce pas glorieux cette pensée? C'est incroyable! Il nous a amenés à un niveau hallucinant, il nous a élevés au rang de frères. C'est incompréhensible dans un sens. Il nous a fait co-héritiers de Christ. Et j'entends pas parler de ça. J'entends parler de Christ, il est roi, il règne sur son Église. Bien sûr, parce qu'il est roi, il règne. Spirituellement, il règne. Mais il n'est pas à Jérusalem encore. Ce n'est pas cet aspect-là, s'il est clair. Ce n'est pas l'aspect théocratique où Dieu régnait sur Israël. Ce n'est pas seulement l'aspect universel. Il y a un aspect qu'on ne parle plus parce qu'on a été envahi par la notion du royaume. Vous voyez qu'une bonne doctrine comme le royaume peut nous faire perdre un aspect fondamental de notre relation en tant qu'Église avec Christ. Nous le fait perdre de vue. Et c'est à ça que j'aimerais revenir. Les sept étoiles et les sept lampes d'or, c'est un mystère. Et Jean a vu cela. Et ça parle de quoi? Du témoignage de ces églises en Asie mineure, qui parle de notre témoignage à nous, encore aujourd'hui, parce que le message s'adressait à toutes les églises, au pluriel, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutez le message du Seigneur, il est pour vous aussi, dans l'Apocalypse. Le mystère des sept étoiles, des sept lampes d'or, c'est le témoignage de l'Église dans les mains du Seigneur, dans ce monde-ci. Voilà ce que nous sommes. Un témoignage dans le monde. Et l'enlèvement de l'Église est appelé un mystère dans 1 Corinthiens 15. C'est l'aspect de notre espérance. Ça, c'est complètement perdu. Apparemment, chez presque 90% des chrétiens de la terre. J'arrive pas à saisir ça. Ça me dépasse que les croyants ne croient plus à l'enlèvement de l'Église. Ça me dépasse. C'est notre espérance. Nous sommes son épouse. Il va venir nous chercher. Frères et sœurs, nous avons complètement englouti cette vérité-là sous le couvert de la théologie biblique du royaume mal interprétée. Que nous sommes l'épouse de Christ et que nous serons enlevés. Pourquoi? Parce que l'époux doit venir prendre son épouse. C'est dans Jean 14. Ce texte-là, il est fondé sur la façon dont on fonctionne dans le mariage juif. Quand on se marie chez les Juifs, il y a la cérémonie des fiançailles. On est déjà considéré comme marié, quoique on ne vit pas ensemble. C'était la condition dans laquelle Joseph et Marie étaient. C'est pour ça qu'ils pouvaient lui parler d'une lettre de divorce, même s'ils étaient fiancés. C'est que dans la théologie juive et la pratique juive, ils étaient effectivement mariés. Mais Joseph et Marie ne cohabitaient pas encore. Le mari doit préparer le lieu d'habitation. C'est comme ça en Afrique encore aujourd'hui, dans beaucoup de pays. Hein? Le mari doit assurer à sa future famille ou belle-famille qu'il va prendre soin de sa future épouse en préparant le domicile. Et quand le domicile est prêt, il va prendre son épouse, va l'emmener, puis ils vont consommer le mariage dans le domicile. Jésus a exactement utilisé l'image du mariage juif pour parler de sa relation avec son épouse, l'Église. « Je vais vous préparer une place, et quand elle sera prête, on est déjà unis à lui, mais quand elle sera prête, je vous reviendrai, je vous prendrai pour que vous soyez avec moi. » Et la théologie cohérente par la suite, interprétation littérale, soutient ce que Paul a enseigné dans l'enlèvement de l'Église, dans une quantité incroyable, plus d'une vingtaine ou trentaine de passages, où il est question de l'enlèvement de l'Église quand on porte attention au contexte. Pas seulement 1 Thessaloniciens 4 qui serait déjà suffisant ou 1 Corinthiens 15 qui serait aussi suffisant, mais tellement d'autres textes. C'est fondamental de comprendre que nous sommes l'épouse. Et mon espérance, ce n'est pas que la terre va être conquise par l'Évangile et là Jésus, reviens, tu peux revenir là. Maintenant le royaume est établi, viens régner. C'est pas ça. Mon espérance, c'est, je rends témoignage et je prêche l'Évangile dans l'espérance que lorsque la dernière pierre sera ajoutée à l'édifice, Christ va revenir nous prendre pour être avec lui. Voilà mon espérance. Et je veux pas que la théologie biblique du royaume, même si c'est une théologie biblique solide qui doit être comprise correctement, engloutisse cette espérance-là. Je fais partie de l'Église et en tant que croyant de l'Église, j'attends mon époux céleste. J'entends plus ça, sauf quand j'entends des chants de hymnes et cantiques. J'ai besoin d'entendre encore ça. Je veux que les prédicateurs prêchent ça dans l'Église. Prêche-moi que je fais partie de l'épouse et du corps de Christ et que nous sommes unis ensemble et qu'il va venir nous prendre pour être avec lui. Comment il me reste de temps? Je savais que je perdrais pédale rendu dans ce sujet-là. C'est déjà passé, c'est ça? Je vais parler brièvement du royaume dans le Nouveau Testament. Il y a des mots grecs, je n'ai pas besoin de parler ça, mais si ça vous intéresse, c'est Basileia qui parle d'un royaume. Ben, c'est le haut qui parle de régner. Donc, c'est essentiellement un mot en particulier qui parle de royaume. Maintenant, il est question, on s'en rend compte dans les évangiles, du royaume des cieux et du royaume de Dieu. On a seulement qu'à faire une comparaison des évangiles en parallèle pour se rendre compte qu'il y a seulement Matthieu qui utilise l'expression « royaume des cieux ». Et il l'utilise de façon interchangeable avec l'expression « royaume de Dieu ». Les deux veulent dire exactement la même affaire. C'est juste une façon juive de présenter le royaume de Dieu. On utilise le mot « ciel » comme synonyme de Dieu chez les Juifs. Hein, quand le fils prodigue, quand il revient vers son père, qu'est-ce qu'il lui dit? « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il n'a pas péché contre les nuages ou la stratosphère, ou je ne sais pas quoi, mais c'est un synonyme de Dieu. Parce que ça fait partie de la culture juive, on va utiliser l'expression « cieux » ou « ciel » pour parler de Dieu. Et donc, le royaume des cieux, royaume de Dieu, juste en regardant de quelle façon Matthieu utilise l'expression et les autres évangélistes, et c'est interchangeable, c'est exactement la même chose. Maintenant, en gardant ça à l'esprit, autant Jésus que Jean-Baptiste ont prêché l'imminence du royaume de Dieu. Ça, c'est une phrase qui est dite dans 3:2 par Jean-Baptiste et dans 4:17 par Jésus. « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Le royaume de Dieu, la même chose. De quel aspect, en tenant compte des cinq qu'on a vus, est-ce qu'il parlait? Notez bien, avant de répondre, que c'est un aspect où on peut dire qu'il s'est approché. On ne peut pas parler du royaume universel de Dieu en disant « il s'est approché ». C'est ridicule, il ne s'approche pas, il est toujours là. Il règne toujours. Et c'est pas le royaume théocratique, c'est fini. Sur Israël, tant que le temps des nations dure, et on sait que le temps des nations n'était pas fini, parce que Jésus lui-même confirme « il n'est pas fini ». Jusqu'à ce que Jérusalem soit foulée au pied des nations, il n'y aura pas de retour. Donc, ce n'est pas cet aspect-là non plus. Ce n'est pas l'Église, on n'est pas rendu à ce point-là. C'est un aspect du royaume que les auditeurs pouvaient comprendre. Et c'est l'aspect du royaume messianique, l'aspect du royaume davidique. Le Messie, il est là. Le roi éternel, là. Celui qui doit régner à Jérusalem éternellement, il est là. Comment un juif peut comprendre cette expression-là? Jésus vient et dit « le royaume de Dieu s'est approché ». C'est cet aspect-là, c'est le seul qui peut être en mouvement de cette façon-là. L'attente des Juifs, c'était dans le règne du Messie-Roi. Le problème, c'est qu'ils l'ont rejeté. Ils avaient transformé l'espérance messianique de l'alliance davidique en un concept politique militaire. Renverse les Romains parce qu'on n'en peut plus d'être sous leur joug. Mais quand ils ont vu que c'était pas ça sa mission, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rejeté. Malgré tout ce qu'il avait fait, malgré toutes les confirmations de son identité. Et c'est le point que Luc veut faire ressortir dans le verset qui suit. « Et comme ils entendaient ces choses, Jésus qui enseigne, il ajouta et leur dit une parabole parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'ils pensaient, le peuple juif, que le royaume de Dieu allait immédiatement paraître. » Quel aspect du royaume de Dieu peut, dans l'esprit d'un juif, à ce moment-là, immédiatement paraître? Le royaume davidique. Ce n'est pas un autre aspect. Ils ne connaissent pas l'aspect mystérieux du royaume, ce n'est pas arrivé encore. Mais c'est cet aspect-là, l'aspect du royaume davidique. C'est le seul qui, techniquement, peut apparaître comme ça, bang. Et en supposant que c'est cet aspect-là du royaume qu'ils pouvaient comprendre, bien, le royaume de Dieu est effectivement imminent parce que le Messie est là. Voyez ce que le théologien Schaeffer a dit. Jean-Baptiste et Jésus ont annoncé que le royaume de Dieu était proche. Aucun d'eux n'a essayé d'en expliquer le sens. Cela aurait été justifié si le royaume qu'ils annonçaient était différent de celui annoncé dans l'Ancien Testament et attendu des Juifs. Tous les prophètes ont parlé d'un royaume à venir pour Israël. L'absence d'explication ou de correction de leur part montre que l'imminence du royaume annoncé est la même que celle anticipée par les prophètes. Comme Jésus l'a dit aux pharisiens dans Matthieu 12:28, « Le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. » Bien sûr, le Messie est là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rejeté. Et en conséquence, le Seigneur leur a adressé le commentaire qui suit, et ça c'est dans un ordre chronologique des événements, dans le passage qui suit, Matthieu 21. « C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et sera donné à une nation qui en rapportera les fruits. La vraie question ici, c'est quoi dans le texte? De quelle nation Jésus parle? On sait qu'il dit, le royaume s'est approché, le royaume est parvenu jusqu'à vous, il rejette le Messie, il va vous être ôté. OK, on comprend que ce sont les Juifs. Il va l'ôter, le donner à une nation qui va en rapporter les fruits. Le mot « nation » se réfère à quoi? Donc, il y a deux conclusions qui vont venir à l'esprit de n'importe quel chrétien, Israël ou l'Église. Et si on regarde comment le texte utilise ces deux possibilités-là, là, comment il utilise le mot, l'Église est appelée une nation dans 1 Pierre 2, verset 9, une nation sainte, c'est vrai. Mais le contexte de ce passage ici est la cohérence théologique, c'est-à-dire comment la Bible développe la doctrine du royaume, ça nous amène à croire que Jésus parlait d'une génération future de Juifs croyants. Va être ôté à cette génération-ci et va être donné à une autre génération. Et le mot « nation » est utilisé pour parler dans ce sens d'Israël. Même Pilate, il a dit « ta nation » et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Israël est aussi appelé une nation sainte, comme l'Église, c'est vrai. Mais le contraste dans Matthieu, il est entre quoi? Est-ce que Jésus parle de cela dans un contraste ou un contexte de contraste entre Israël et l'Église? Non, entre des vignerons fidèles et des vignerons infidèles. Et donc, il va ôter aux vignerons infidèles la belle la grâce ou le beau privilège qu'ils avaient de voir le Messie et le royaume s'approcher d'eux, il va le donner à une autre génération de vignerons qui, ceux-là, seront fidèles. Donc, le Seigneur est en train d'identifier une génération future de croyants juifs qui vont bénéficier du royaume messianique où le roi va être là puis il va régner. Mais ce n'était pas pour eux. Dieu est tellement au contrôle, tellement souverain, qu'il va utiliser tout ce beau rejet-là d'Israël pour démarrer un programme qui était déjà dans ses plans, mais qui était caché, l'aspect mystérieux du royaume, l'Église. Et donc, dans Romains, Paul dit clairement, Dieu n'a pas rejeté son peuple, malgré qu'ils l'ont rejeté. Dieu n'a pas fait ça. Il a mis de côté Israël, et c'est l'Église qui bénéficie de certaines des bénédictions spirituelles, de la Nouvelle Alliance, on est des ministres de la Nouvelle Alliance, pas dans le sens que c'est à nous que l'Alliance a été donnée, mais dans le sens où on bénéficie de ces bénédictions-là maintenant dans l'Église, mais un jour ce sera directement avec Israël. Les Juifs qui étaient les plus près du Seigneur, ce sont les apôtres. Ils attendaient la même chose que tous ces auditeurs-là, le royaume davidique. Et là, ils ont constaté que le Messie allait à la croix. Mais qu'est-ce que le roi fait à la croix? Pourquoi ne règne-t-il pas? Pourquoi le royaume davidique n'arrive-t-il pas? Il nous avait promis ça à travers tout l'Ancien Testament. Alors, il se retrouve face à face avec lui dans les dernières minutes avant que le Messie quitte pour le ciel. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Et acte 1-6 lui pose la question suivante. Seigneur, est-ce en ce temps-ci, là maintenant, que tu rétablis le royaume pour Israël? Ah, mais c'est incroyable. Ils viennent de passer 3 années avec lui. Ils l'ont vu offrir le royaume. Ils ont vu les Juifs en général rejeter le royaume. Ils ont entendu les explications de l'aspect mystérieux du royaume. Et qu'est-ce qu'ils demandent comme dernière question avant que Jésus reparte pour le ciel? Qu'est-ce qui arrive avec le royaume messianique? Qu'est-ce qui arrive avec le royaume d'Israël? C'est le moment parfait pour que Jésus dise, « Les gars, je suis à 1000 ». Je crois pas au royaume messianique, il n'y en aura pas. C'est le temps de le dire. Pourquoi il le fait pas? Et Jésus ne peut pas les laisser dans l'incertitude comme ça, puis les laisser aller. Il croit encore qu'il va y avoir le royaume messianique. Il croit que Jésus doit régner à Jérusalem comme l'Alliance davidique le dit, comme Ézéchiel le dit. Mais pourquoi ça arrive pas? C'est le moment parfait. Il ne faut pas qu'ils aient ce faux espoir d'un rétablissement du royaume messianique s'il n'y en aura jamais, comme les amillénaristes le disent. C'est le temps pour Jésus de corriger leur fausse doctrine, s'il en est une. Mais c'est pas ça qu'il va faire, c'est le contraire. Verset suivant. Qu'est-ce que le Seigneur leur répond? « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservés à sa propre autorité. » Dieu souverain, il a fixé un moment précis où le royaume, il va être établi. Mais ce n'est pas maintenant. Qu'est-ce que dit le verset suivant, le verset 8? Vous serez mes témoins. Il y a un nouveau programme. À Jérusalem, dans la Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités du monde, et c'est le programme de l'Église dont les actes vont attester un témoignage dans les 30 premières années. Et pour les Juifs, à travers ces 30 premières années-là, ils ont comme encore beaucoup de peine à comprendre le programme du royaume mystérieux, c'est-à-dire l'Église. On le voit parce que quand un Juif rentre chez un païen, il dit « Qu'est-ce que tu es allé faire chez un païen? » Ils ont de la difficulté. C'est Paul qui va donner les explications sur cet aspect du royaume. Mais Jésus n'a jamais dit « Arrêtez de croire à ça. » Il n'y aura pas de royaume messianique. Là. C'est maintenant l'Église, c'est ça le royaume. Jésus n'a jamais fait ça. Et c'était le moment, hein, parce que c'est la dernière question, il passe en va au ciel. Et au contraire, il va confirmer que Dieu a un plan, et ce plan-là, il va l'accomplir fidèlement. Vous savez, c'est quoi le point commun entre le royaume messianique, cet aspect du royaume de Dieu, et la Nouvelle Alliance? C'est que tous les deux ont été rapportés à plus tard. Donc, Israël, un jour, va rentrer dans un royaume où Christ, le Messie, sera présent sur la terre à Jérusalem avec David, son prince, selon Ézéchiel, dans un nouveau temple, avec des sacrifices, sanglants pour le péché, pas pour qu'il soit pardonné, juste pour servir Dieu comme il aurait toujours dû le faire. Ézéchiel le dit lui-même ça. Je sais pas pourquoi ça échappe à tellement de commentateurs quand c'est dit clairement dans le texte. On fera peut-être une étude d'Ézéchiel éventuellement, si le Seigneur le permet, mais c'est clair qu'il a sa place. Puis, le Seigneur, il a laissé cet espoir-là, mais il dit « Maintenant, vous allez être mes témoins, il y a un nouveau programme. » Et ce programme-là va être exprimé, non pas dans des termes d'avancement du royaume, mais de l'édification du corps de Christ. Regardez, c'est petit, je m'excuse pour ça, mais je voulais en mettre le paquet sur une seule diapositive, pour pas aller dans trop de temps. Dans Romains 14, 19, « Poursuivons les choses qui tendent à l'édification mutuelle. » 15, 2, « Que chacun cherche à plaire à son prochain pour l'édification. Vous êtes l'édifice de Dieu. » Que le prophète, celui qui prophétise, parle pour l'édification. C'est toujours ce mot-là qui revient en lien avec la croissance de l'Église. L'édification. Construit sur la parole de Dieu. Unis ensemble, parce que nous sommes l'épouse. C'est quoi la relation entre l'Église et le royaume? Nous sommes l'aspect mystérieux du royaume de Dieu. C'est cet aspect-là qui était caché avant, un aspect tellement glorieux, mais qui n'abolit pas, ne remplace pas l'aspect du royaume messianique à venir. Le Messie va régner. Jésus n'a jamais abrogé ça. Paul, dans sa théologie de Romains 9 à 11, le confirme. Et l'Apocalypse, à la fin, n'invente pas de nouvelle doctrine, fait simplement que dire la durée de ce royaume-là, une durée précise. Par la suite, nous serons dans le royaume de Dieu, dans l'éternité, et je crois toujours avec la distinction entre Israël et l'Église, puisque nous sommes l'épouse de Christ, je ne pense pas qu'on va perdre cette identité-là dans l'éternité. On va rester distinct à ce niveau-là, c'est ce que je pense, mais là je le dis, c'est une conviction personnelle. Je n'ai pas trouvé de verset qui me justifie clairement là-dessus, mais je sais ce que je crois, à cause de notre place tellement spéciale avec le Seigneur. Mais le Seigneur va régner pour tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce royaume messianique-là, à venir, il a pour but spécifique de restaurer Israël et de leur donner enfin l'occasion de faire ce qu'ils auraient toujours dû faire, mais maintenant ils vont le faire parce qu'ils vont bénéficier de la nouvelle alliance, ils vont avoir un cœur transformé, lavé, pardonné de leurs péchés, et ils vont pouvoir honorer Dieu à travers les sacrifices du temple d'Ézéchiel, mais dans un esprit de reconnaissance, dans un esprit peut-être même commémoratif de ce que l'agneau de Dieu a fait à Golgotha. Maintenant, ils peuvent le reconnaître, et ainsi de suite. Et c'est une durée limitée. Il n'y aura pas de temple dans l'éternité. Fini le temple. Le temple là, d'Ézéchiel, c'est juste pour 1000 ans, la période du règne messianique. Après, c'est terminé. Dieu va accomplir son programme du royaume à ce moment-là. Je vais terminer avec un mot de prière et quelques questions s'il y en a. Est-ce que ça convient? OK, merci. On va prier. Seigneur, merci de ce que nous faisons partie du royaume en quelque sorte en étant dans l'Église. Mais merci, Seigneur, qu'il y a cette distinction dans l'Écriture qui nous montre que, étant un aspect particulier du royaume, le mystère qui nous place dans une relation tellement privilégiée avec toi, Père, et avec le Fils en tant que tête du corps en tant qu'époux de l'épouse. Seigneur, mais nous reconnaissons aussi tous ces autres aspects de ton règne, de ton royaume, et donne-nous de ne pas avoir de confusion dans notre théologie, dans notre esprit, dans notre pratique. Que l'on soit dans le monde actuel des lumières, dans le monde des témoins de Jésus-Christ, de notre époux céleste, de notre chef, de la tête du corps dans lequel nous sommes. Et donne-nous, Seigneur, de chercher à édifier les uns les autres, à nous édifier dans ta parole, dans l'obéissance, dans la sanctification. Et donne-nous, Seigneur, de raviver dans notre esprit l'espérance de ton retour pour enlever ton Église et continuer ce programme prophétique avec Israël, avec la 70e semaine de Daniel qui vient, la 70e semaine de Daniel. Merci, Père, parce que tu vas accomplir tes promesses à l'égard d'Israël. Merci qu'aujourd'hui, tu nous donnes d'avoir des bénédictions spirituelles de la nouvelle alliance pour nous à travers tes promesses à Abraham, entre autres. Merci, Père, de ce que nous étions tellement loin, mais tu nous as rapprochés par le sang de Christ. Nous te bénissons, Père, et te prions de nous garder sur le retour et de bénir nos discussions pour ta gloire. Amen.
Amen.
Okay. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Quand on parle des choses éternellement, et ni commencement, pourquoi on est seulement enlevé dans l'axe de temps de l'île, mais dans le chrétien, la foi de Dieu, éternellement avec Christ?
C'est le contexte qui doit déterminer quelle est la portée du mot éternel. Parce que dans la langue hébraïque, le mot éternel n'a pas nécessairement une définition de infini, à gauche ou à droite, c'est-à-dire de début de fin. Ça, c'est le contexte qui nous l'indique. Le passage qui parle de notre éternité avec Christ, il est clair. C'est que ça n'aura jamais de fin. On sera toujours avec lui parce qu'il n'y a rien plus tard qui vient préciser s'il y a une durée particulière de cette aspect-là de notre relation avec le Seigneur. Alors que pour l'aspect du royaume davidique, bien qu'il soit appelé un règne éternel, il est déjà arrêté à Sédécias. Donc, il s'est terminé là. Ça n'a pas été une si longue période que ça, la période monarchique. Elle s'est débutée autour de 1071, peut-être, avec Saül, pour se terminer en 586 avant Jésus-Christ avec la destruction de Babylone. Donc, c'est à peine quoi, 500 ans? Et c'était déclaré comme éternel. Mais on voit par le contexte que c'était une période d'une certaine durée. Ça a du sens. Et ça, c'est le contexte qui nous l'indique. Moi, je ne veux pas vous retenir, là, si...
Et sur quelle base biblique, les chrétiens qui pensent être dans le règne actuellement. Est-ce que tu as un ou deux versets qui pourraient nous éclairer à ce sujet? Parce que, bien sûr, il y a des échanges avec ces personnes. Hein, qui...
En fait, le fardeau de la preuve est plutôt dans l'autre camp. Ce serait plutôt de démontrer, est-ce qu'il y a des textes qui nous montrent justement que nous sommes dans un royaume, un règne, et que c'est ce que nous sommes en train de bâtir? Et la seule façon dont ceux qui parlent ainsi peuvent le justifier, c'est en adoptant une méthode d'interprétation, je pense, qui est autre que littérale, donc allégorique, de textes de l'Ancien Testament appliqués à l'Église. Mais là, je pense qu'on fait violence au contexte, dans un contexte d'interprétation littérale, bien sûr. Le Nouveau Testament parle très, très peu de notre relation avec Christ dans un contexte de relation roi et sujet du royaume. Très peu de versets, c'est minimal. Mais il y a énormément de textes qui parlent de notre relation avec lui en tant que corps et dont il est la tête. Au moins 4 épîtres de Paul qui développent beaucoup du sujet et époux-épouse, etc. Donc, je dirais que c'est le sens qui est dominant. Maintenant, moi, vous comprenez que j'ai des amis qui sont amillénaristes. J'ai des très bons amis qui ont la théologie réformée comme point de vue théologique. On ne s'entend pas nécessairement là-dessus, mais ça ne veut pas dire que ce seront des chrétiens qui seront charnels ou complètement à côté de la plaque dans tous les domaines. Je crois qu'ils font erreur au niveau de l'eschatologie en particulier, puis que c'est pas la bonne compréhension de la relation entre l'Église et le royaume, mais je peux quand même travailler avec eux. Ce sont des frères dans le Seigneur, après tout. Ça, c'est. Je pense qu'on peut avoir cette discussion-là. C'est mieux même, d'ailleurs, que de dire « Ah non, tu n'as rien compris, alors... » Non, c'est pas la bonne attitude. On défend un point de vue, ça c'est clair. Je vais toujours enseigner de ce point de vue-là, je le crois fermement, puis bien appuyé, je crois, mais bon, je peux travailler avec des gens qui ont une opinion différente. Je vais pas vous massacrer si vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est bon?